Les laboureurs. Il y a des justes dont la conscience est si tranquille qu'on ne peut approcher d'eux sans participer à la paix qui s'exhale, pour ainsi dire, de leur cœur et de leur discours. À mesure que le solitaire parlait, je sentais les passions s'apaiser dans mon sein, et l'orage même du ciel semblait s'éloigner à sa voix. Les nuages furent bientôt assez dispersés pour nous permettre de quitter notre retraite. Nous sortîmes de la forêt et nous commençâmes à gravir le revers d'une haute montagne. Le chien marchait devant nous, emportant au bout d'un bâton la lanterne éteinte. Je tenais la main d'Atala et nous suivions le missionnaire. Il se détournait souvent pour nous regarder, contemplant avec pitié nos malheurs et notre jeunesse. Un livre était suspendu à son cou. Il s'appuyait sur un bâton blanc. Sa taille était élevée, sa figure pâle et maigre, sa physionomie simple et sincère. Il n'avait pas les traits morts et effacés de l'homme né sans passion. On voyait que ses jours avaient été mauvais, et les rides de son front montraient les belles cicatrices des passions guéries par la vertu et par l'amour de Dieu et des hommes. Quand il nous parlait debout et immobile, sa longue barbe, ses yeux modestement baissés, le ton affectueux de sa voix, tout en lui avait quelque chose de calme et de sublime. Quiconque a vu comme moi le père Aubry cheminant seul avec son bâton et son bréviaire dans le désert a une véritable idée du voyageur chrétien sur la terre. Après une demi-heure d'une marche dangereuse par les sentiers de la montagne, nous arrivâmes à la grotte du missionnaire. Nous y entrâmes à travers les lierres et les giraumons humides que la pluie avait abattus des rochers. Il n'y avait dans ce lieu qu'une natte de fruits de papaya, une calebasse pour puiser de l'eau, quelques vases de bois, une bêche, un serpent familier et sur une pierre qui servait de table un crucifix et le livre des chrétiens. L'homme des anciens jours se hâta d'allumer du feu avec des lianes sèches. Il brisa du maïs entre deux pierres, et en ayant fait un gâteau, il le mit cuire sous la cendre. Quand ce gâteau eut pris au feu une belle couleur dorée, il nous le servit tout brûlant, avec de la crème de noix dans un vase d'érable. Le soir ayant ramené la sérénité, le serviteur du grand esprit nous proposa d'aller nous asseoir à l'entrée de la grotte. Nous le suivîmes dans ce lieu qui commandait une vue immense. Les restes de l'orage étaient jetés en désordre vers l'Orient. Les feux de l'incendie allumés dans les forêts par la foudre brillaient encore dans le lointain. Au pied de la montagne, un bois de pins tout entier était renversé dans la vase, et le fleuve roulait pêle-mêle, les argiles détrempées, les troncs des arbres, les corps des animaux, et les poissons morts dont on voyait le ventre argenté flotter à la surface des eaux. Ce fut au milieu de cette scène qu'Atala raconta notre histoire au vieux génie de la montagne. Son cœur parut touché, et des larmes tombèrent sur sa barbe. Mon enfant, dit-il à Atala, il faut offrir vos souffrances à Dieu pour la gloire de ce qui vous avait déjà fait tant de choses. Il vous rendra le repos. Voyez fumer ces forêts, sécher ces torrents, se dissiper ces nuages. Croyez-vous que celui qui peut calmer une pareille tempête ne pourra pas apaiser les troubles du cœur de l'homme? Si vous n'avez pas de meilleure retraite, ma chère fille, je vous offre une place au milieu du troupeau que j'ai eu le bonheur d'appeler à Jésus-Christ. J'instruirai chaque tasse, et je vous le donnerai pour époux quand il sera digne de l'être. À ces mots, je tombai aux genoux du solitaire en versant des pleurs de joie. Mais Atala devint pâle comme la mort. Le vieillard me releva avec bénignité, et je m'aperçus alors qu'il avait les deux mains mutilées. Atala comprit sur-le-champ ses malheurs. « Les barbares ! » s'écria-t-elle. « Ma fille, reprit le père avec un doux sourire, qu'est-ce que cela auprès de ce qu'a enduré mon divin maître ? Si les Indiens idolâtres m'ont affligé, ce sont de pauvres aveugles que Dieu éclairera un jour. Je les chéris même davantage en proportion des maux qu'ils m'ont faits. Je n'ai pu rester dans ma patrie où j'étais retourné et où une illustre reine m'a fait l'honneur de vouloir contempler ces faibles marques de mon apostolat. Et quelle récompense plus glorieuse pouvais-je recevoir de mes travaux que d'avoir obtenu du chef de notre religion la permission de célébrer le divin sacrifice avec ses mains mutilées. Il ne me restait plus, après un tel honneur, qu'à tâcher de me rendre digne. Je suis revenu au nouveau monde, consumer le reste de ma vie au service de mon Dieu. Il y a bientôt 30 ans que j'habite cette solitude, et il y en aura demain 22 que j'ai pris possession de ce rocher. Quand j'arrivais dans ces lieux, je n'y trouvais que des familles vagabondes dont les mœurs étaient féroces et la vie fort misérable. Je leur ai fait entendre la parole de paix et leurs mœurs se sont graduellement adoucies. Ils vivent maintenant rassemblés au bas de cette montagne. J'ai tâché, en leur enseignant les voies du salut, de leur apprendre les premiers arts de la vie, mais sans les porter trop loin et en retenant ces honnêtes gens dans cette simplicité qui fait le bonheur. Pour moi, craignant de les gêner par ma présence, je me suis retiré sous cette grotte où ils viennent me consulter. C'est ici que, loin des hommes, j'admire Dieu dans la grandeur de ses solitudes et que je me prépare à la mort que m'annoncent mes vieux jours. » En achevant ces mots, le solitaire se mit à genoux et nous imitâmes son exemple. Il commença à haute voix une prière à laquelle Atala répondait. De muets éclairs ouvraient encore les cieux dans l'Orient, et sur les nuages du couchant, 3 soleils brillaient ensemble. Quelques renards dispersés par l'orage allongeaient leurs museaux noirs au bord des précipices, et l'on entendait le frémissement des plantes qui, séchant à la brise du soir, relevaient de toutes parts leurs tiges abattues. Nous rentrâmes dans la grotte où l'ermite étendit un lit de mousse de cyprès pour Atala. Une profonde langueur se peignait dans les yeux et dans les mouvements de cette vierge. Elle regardait le père Aubry comme si elle eût voulu lui communiquer un secret. Mais quelque chose semblait la retenir, soit ma présence, soit une certaine honte, soit l'inutilité de l'aveu. Je l'entendis se lever au milieu de la nuit. Elle cherchait le solitaire, mais comme il lui avait donné sa couche, il était allé contempler la beauté du ciel et prier Dieu sur le sommet de la montagne. Il me dit le lendemain que c'était assez sa coutume, même pendant l'hiver, aimant à voir les forêts balancer leurs cimes dépouillées, les nuages voler dans les cieux, et à entendre les vents et les torrents gronder dans la solitude. Ma sœur fut donc obligée de retourner à sa couche où elle s'assoupit. Hélas, comblée d'espérance, je ne vis dans la faiblesse d'Atala que des marques passagères de lassitude. Le lendemain, je m'éveillai au chant des cardinaux et des oiseaux moqueurs, nichés dans les acacias et les lauriers qui environnaient la grotte. J'allais cueillir une rose de magnolia et je la déposai, humectée des larmes du matin, sur la tête d'Atala endormie. J'espérais, cela la religion de mon pays, que l'âme de quelque enfant mort à la mamelle serait descendue sur cette fleur dans une goutte de rosée et qu'un heureux songe la porterait au sein de ma future épouse. Je cherchais ensuite mon hôte, Je le trouvai, la robe relevée dans ses deux poches, un chapelet à la main, et m'attendant assis sur le tronc d'un pin tombé de vieillesse. Il me proposa d'aller avec lui à la mission, tandis qu'Atala reposait encore. J'acceptai son offre, et nous nous mîmes en route à l'instant. En descendant la montagne, j'aperçus des chaînes où les génies semblaient avoir dessiné des caractères étrangers. L'ermite me dit qu'il les avait tracés lui-même, que c'étaient des vers d'un ancien poète appelé Homère, et quelques sentences d'un autre poète plus ancien encore nommé Salomon. Il y avait je ne sais quelle mystérieuse harmonie entre cette sagesse des temps, ces vers rongés de mousse, ce vieux solitaire qui les avait gravés et ces vieux chênes qui lui servaient de livres. Son nom, son âge, la date de sa mission étaient aussi marqués sur un roseau de savane au pied de ces arbres. Je m'étonnais de la fragilité du dernier monument. « Il durera encore plus que moi, » me répondit le père, « et aura toujours plus de valeur que le peu de bien que j'ai fait. » De là nous arrivâmes à l'entrée d'une vallée où je vis un ouvrage merveilleux. C'était un pont naturel, semblable à celui de la Virginie, dont tu as peut-être entendu parler. Les hommes, mon fils, surtout ceux de ton pays, imitent souvent la nature, et leurs copies sont toujours petites. Il n'en est pas ainsi de la nature, quand elle a l'air d'imiter les travaux des hommes en leur offrant en effet des modèles. C'est alors qu'elle jette des ponts du sommet d'une montagne au sommet d'une autre montagne, suspend des chemins dans les nues, répand des fleuves pour canaux, sculpte des monts pour colonnes et pour bassins creuse des mers. Nous passâmes sous l'arche unique de ce pont et nous nous trouvâmes devant une autre merveille. C'était le cimetière des Indiens de la mission ou les bocages de la mort. Le Père Audry avait permis à ces néophytes d'ensevelir leurs morts à leur manière et de conserver au lieu de leur sépulture son nom sauvage. Il avait seulement sanctifié ce lieu par une croix. Le sol en était divisé, comme le champ commun des moissons, en autant de lots qu'il y avait de familles. Chaque lot faisait à lui seul un bois qui variait selon le goût de ceux qu'il avait plantés. Un ruisseau serpentait sans bruit au milieu de ces bocages. On l'appelait le ruisseau de la paix. Ce riant asile des âmes était fermé à l'orient par le pont sous lequel nous avions passé. Deux collines le bordaient au septentrion et au midi. Il ne s'ouvrait qu'à l'occident où s'élevait un grand bois de sapins. Les troncs de ces arbres, rouges, marbrés de vert, montant sans branches jusqu'à leur cime, ressemblaient à de hautes colonnes et formaient le péristyle de ce temple de la mort. Il y régnait un bruit religieux, semblable au sourd mugissement de l'orgue sous les voûtes d'une église. Mais lorsqu'on pénétrait au fond du sanctuaire, on n'entendait plus que les hymnes des oiseaux, qui célébrait à la mémoire des morts une fête éternelle. En sortant de ce bois, nous découvrîmes le village de la mission, situé au bord d'un lac, au milieu d'une savane semée de fleurs. On y arrivait par une avenue de magnolia et de chênes verts, qui bordait une de ces anciennes routes que l'on trouve vers les montagnes qui divisent le Kentucky des Florides. Aussitôt que les Indiens aperçurent leur pasteur dans la plaine, ils abandonnèrent leurs travaux et accoururent au-devant de lui. Les uns baisaient sa robe, les autres allaient ses pas. Les mères élevaient dans leurs bras leurs petits-enfants pour leur faire voir l'homme de Jésus-Christ qui répandait des larmes. Ils s'informaient en marchant de ce qui se passait au village. Ils donnaient un conseil à celui-ci, réprimandaient doucement celui-là. Il parlait des moissons à recueillir, des enfants à instruire, des peines à consoler, et il mêlait Dieu à tous ses discours. Ainsi escortés, Nous arrivâmes au pied d'une grande croix qui se trouvait sur le chemin. C'était là que le serviteur de Dieu avait accoutumé de célébrer les mystères de sa religion. « Mes chers néophytes, dit-il en se tournant vers la foule, il vous est arrivé un frère et une sœur, et pour surcroît de bonheur, je vois que la divine providence a épargné hier vos moissons. Voilà deux grandes raisons de le remercier. Offrons donc le saint sacrifice, et que chacun y apporte un recueillement profond, une foi vive, une reconnaissance infinie et un cœur humilié. » Aussitôt, le prêtre divin revêt une tunique blanche d'écorce de myrrhier. Les vases sacrés sont tirés d'un tabernacle au pied de la croix. L'autel se prépare sur un quartier de roche. L'eau se puise dans le torrent voisin et une grappe de raisin sauvage fournit le vin du sacrifice. Nous nous mettons tous à genoux dans les hautes herbes. Le mystère commence. L'aurore paraissait derrière les montagnes, enflammait l'Orient. Tout était d'or ou de rose dans la solitude. L'astre, annoncé par tant de splendeur, sortit enfin d'un abîme de lumière, et son premier rayon rencontra l'hostie consacrée que le prêtre en ce moment même élevait dans les airs. Ô charme de la religion ! Ô magnificence du culte chrétien. Pour sacrificateur un vieil ermite, pour autel un rocher, pour église le désert, pour assistance d'innocents sauvages. Non, je ne doute point qu'au moment où nous nous prosternâmes, le grand mystère ne s'accomplit, et que Dieu ne descendit sur la terre, car je le sentis descendre dans mon cœur. Après le sacrifice, où il ne manqua pour moi que la fille de Lopez, nous nous rendîmes au village. Là régnait le mélange le plus touchant de la vie sociale et de la vie de la nature. Au coin d'une cyprière de l'antique désert, on découvrait une culture naissante. Les épis roulaient à flots d'or sur le tronc du chêne abattu, et la gerbe d'un été remplaçait l'arbre de 3 siècles. Partout, on voyait les forêts livrées aux flammes, pousser de grosses fumées dans les airs, et la charrue se promenait lentement entre les débris de leurs racines. Des arpenteurs avec de longues chaînes allaient mesurant le terrain, des arbitres établissaient les premières propriétés, l'oiseau scellait son nid, le repaire de la bête féroce se changeait en une cabane. On entendait gronder des forges, et les coups de la cognée faisaient pour la dernière fois mugir des échos expirant eux-mêmes avec les arbres qui leur servaient d'asile. J'errais avec ravissement au milieu de ces tableaux, rendus plus doux par l'image d'Atala et par les rêves de félicité dont je berçais mon cœur. J'admirais le triomphe du christianisme sur la vie sauvage. Je voyais l'Indien se civilisant à la voix de la religion. J'assistais aux noces primitives de l'homme et de la terre. L'homme, par ce grand courant, abandonnant à la terre l'héritage de ses sœurs, et la terre s'engageant en retour, apportait fidèlement les moissons, les fils et les cendres de l'homme. Cependant, on présenta un enfant au missionnaire, qui le baptisa parmi des jasmins en fleurs, au bord d'une source, tandis qu'un cercueil au milieu des jeux et des travaux se rendait au bocage de la mort. Deux époux reçurent la bénédiction nuptiale sous un chêne, et nous allâmes ensuite les établir dans un coin du désert. Le pasteur marchait devant nous, bénissant ça et là, et le rocher, et l'arbre et la fontaine, comme autrefois selon le livre des chrétiens. Dieu avait béni la terre inculte en la donnant en héritage à Adam. Cette procession, qui pêle-mêle avec ses troupeaux suivait de rocher en rocher son cher vénérable, représentait à mon cœur attendri ces migrations des premières familles, alors que Sem, avec ses enfants, s'avançait à travers le monde inconnu en suivant le soleil qui marchait devant lui. Je voulus savoir du saint ermite comment il gouvernait ses enfants. Il me répondit avec une grande complaisance: « Je ne leur ai donné aucune loi, je leur ai seulement enseigné à s'aimer, à prier Dieu et à espérer une meilleure vie. Toutes les lois du monde sont là-dedans. Vous voyez au milieu du village une cabane plus grande que les autres. Elle sert de chapelle dans la saison des pluies. On s'y assemble soir et matin pour louer le Seigneur, et quand je suis absent, c'est un vieillard qui fait la prière, car la vieillesse est, comme la maternité, une espèce de sacerdoce. Ensuite, on va travailler dans les champs, et si les propriétés sont divisées, afin que chacun puisse apprendre l'économie sociale, les maisons sont déposées dans des greniers communs pour maintenir la charité fraternelle. Quatre vieillards distribuent avec égalité le produit du labeur. Ajoutez à cela des cérémonies religieuses, beaucoup de cantiques, la croix où j'ai célébré les mystères, l'ormeau sous lequel je prêche dans les bons jours, nos tombeaux tout près de nos champs de blé, nos fleuves où je plonge les petits-enfants, et les saints gens de cette nouvelle Béthanie, vous aurez une idée complète de ce royaume de Jésus-Christ. » Les paroles du solitaire me ravirent, et je sentis la supériorité de cette vie stable et occupée sur la vie errante et oisive du sauvage. Ah, René, je ne murmure point contre la Providence, mais j'avoue que je ne me rappelle jamais cette société évangélique sans éprouver l'amertume des regrets. Qu'une hutte avec Atala sur ses bords eût rendu ma vie heureuse. Là finissaient toutes mes courses. Là, avec une épouse inconnue des hommes, cachant mon bonheur au fond des forêts, j'aurais passé comme ces fleuves qui n'ont pas même un nom dans le désert. Au lieu de cette paix que j'osais alors me promettre, dans quel trouble n'ai-je point coulé mes jours? Jouet continuel de la fortune, brisé sur tous les rivages, longtemps exilé de mon pays et n'y trouvant à mon retour qu'une cabane en ruine et des amis dans la tombe, telle devait être la destinée de chaque tasse. Le drame. Si mon songe de bonheur fut vif, il fut aussi d'une courte durée, et le réveil m'attendait à la grotte du solitaire. Je fus surpris, en y arrivant au milieu du jour, de ne pas voir Atala accourir au-devant de nos pas. Je ne sais quelle soudaine horreur me saisit. En approchant de la grotte, je n'osais appeler la fille de Lopez. Mon imagination était également épouvantée, ou du bruit ou du silence qui succéderait à mes cris. Encore plus effrayé de la nuit qui régnait à l'entrée du rocher, je dis au missionnaire: « Oh, vous, que le ciel accompagne et fortifie, pénétrez dans ces ombres. » Qu'il est faible celui que les passions dominent, qu'il est fort celui qui se repose en Dieu. Il y avait plus de courage dans ce cœur religieux, flétri par 76 années, que dans toute l'ardeur de ma jeunesse. L'homme de paix entra dans la grotte et je restai au dehors, plein de terreur. Bientôt, un faible murmure, semblable à des plaintes sorties du fond du rocher, et vint frapper mon oreille. Poussant un cri et retrouvant mes forces, je m'élançai dans la nuit de la caverne. Esprit de mes pères, vous savez seul le spectacle qui frappa mes yeux. Le solitaire avait allumé un flambeau de pin. Il le tenait d'une main tremblante au-dessus de la couche d'Atala. Cette belle et jeune femme, à moitié soulevée sur le coude, se montrait pâle et échevelée. Les gouttes d'une sueur pénible brillaient sur son front. Ses regards à demi éteints cherchaient encore à m'exprimer son amour et sa bouche essayait de sourire. Frappé comme d'un coup de foudre, les yeux fixés, les bras étendus, les lèvres entrouvertes, je demeurai immobile. Un profond silence règne un moment parmi les trois personnages de cette scène de douleur. Le solitaire le rompt le premier.
« Ceci, dit-il, ne sera qu'une fièvre occasionnée par la fatigue, et si nous nous résignons à la volonté de Dieu, il aura pitié de nous. »
À ces paroles, le sang suspendu reprit son cours dans mon cœur, et avec la mobilité du sauvage, je passai subitement de l'excès de la crainte à l'excès de la confiance. Mais Atala ne m'y laissa pas longtemps. Balançant tristement la tête, elle nous fit signe de nous approcher de sa couche. « Mon père, dit-elle d'une voix affaiblie en s'adressant aux religieux, je touche au moment de la mort. Oh, Shaktas, écoute sans désespoir le funeste secret que je t'ai caché pour ne pas te rendre trop misérable et pour obéir à ma mère. Tâche de ne pas m'interrompre par des marques d'une douleur qui précipiterait le peu d'instants que j'ai à vivre. J'ai beaucoup de choses à raconter et au battement de cœur qui se ralentissent, à je ne sais quel fardeau glacé que mon sein soulève à peine, je sens que je ne me serais trop hâté. » Après quelques moments de silence, Atala poursuivit ainsi. « Ma triste destinée a commencé presque avant que j'eusse vu la lumière. Ma mère m'avait conçu dans le malheur. Je fatiguais son sein et elle me mit au monde avec de grands déchirements d'entrailles. On désespéra de ma vie. Pour sauver mes jours, ma mère fit un vœu. Elle promit à la reine des anges que je lui consacrerais ma virginité si j'échappais à la mort. Vœu fatal qui me précipite au tombeau. J'entrai dans ma 16e année lorsque je perdis ma mère. Quelques heures avant de mourir, elle m'appela au bord de sa couche. « Ma fille, me dit-elle en présence d'un missionnaire qui consolait ses derniers instants, ma fille, tu sais le vœu que j'ai fait pour toi. Voudrais-tu démentir ta mère? Oh, mon Atala, je te laisse dans un monde qui n'est pas digne de posséder une chrétienne, au milieu d'idolâtres qui persécutent le Dieu de ton père et le mien, le Dieu qui, après t'avoir donné le jour, te l'a conservé par un miracle. Et, ma chère enfant, en acceptant le voile des vierges, tu ne fais que renoncer aux soucis de la cabane et aux funestes passions qui ont troublé le sein de ta mère. Viens donc, ma bien-aimée, viens, jure sur cette image de la mère du Sauveur, entre les mains de ce saint prêtre et de ta mère expirante, que tu ne me trahiras point à la face du ciel. Songe que je me suis engagé pour toi, afin de te sauver la vie, et que si tu ne tiens pas ma promesse, tu plongeras l'âme de ta mère dans des tourments éternels. Oh, ma mère, pourquoi parlâtes-vous ainsi? Ô religion qui fais à la fois mes maux et ma félicité, qui me perd et qui me console. Et toi, cher et triste objet d'une passion qui me consume jusque dans les bras de la mort, tu vois maintenant, ô Shaktas, ce qui a fait la rigueur de notre destinée.
Fondant en pleurs et me précipitant dans le sein maternel, je promis tout ce qu'on voulut me promettre. Le missionnaire prononça sur moi les paroles redoutables et me donna le scapulaire qui me lie pour jamais. Ma mère me menaça de sa malédiction si jamais je rompais mes vœux, et après m'avoir recommandé un secret inviolable envers les païens, persécuteurs de ma religion, elle expira en me tenant embrassé. Je ne connus pas d'abord le danger de mes serments. Pleine d'ardeur et chrétienne véritable, fière du sang espagnol qui coule dans mes veines, je n'aperçus autour de moi que des hommes indignes de recevoir ma main. Je m'applaudis de n'avoir d'autre époux que le Dieu de ma mère. Je te vis, jeune et beau prisonnier, je m'attendris sur ton sort. Je t'osais parler au bûcher de la forêt, alors je sentis tout le poids de mes vœux. Comme Atala achevait de prononcer ces paroles, serrant les poings et regardant le missionnaire d'un air menaçant, je m'écriai « la voilà donc cette religion que vous m'avez tant vantée. Périsse le serment qui m'enlève Atala. Périsse le Dieu qui contrarie la nature. Homme prêtre, qu'es-tu venu faire dans ces forêts ?»« Te sauver, dit le vieillard d'une voix terrible, dompter tes passions, et t'empêcher, blasphémateur, d'attirer sur toi la colère céleste. Il te sied bien, jeune homme, à peine entré dans la vie, de te plaindre de tes douleurs. Où sont les marques de tes souffrances? Où sont les injustices que tu as supportées? Où sont les vertus qui seules pourraient te donner quelque droit à la plainte? Quel service as-tu rendu? Quel bien as-tu fait? Et malheureux, tu ne m'offres que des passions et tu oses accuser le ciel? Quand tu auras, comme le père Aubry, passé 30 années exilé sur les montagnes, tu seras moins prompt à juger les desseins de la Providence. Tu comprendras alors que tu ne sais rien, que tu n'es rien, et qu'il n'y a point de châtiment si rigoureux, point de mot si terrible que la chair corrompue ne mérite de souffrir. Les éclairs qui sortaient des yeux du vieillard, sa barbe qui frappait sa poitrine, ses paroles foudroyantes le rendaient semblable à un dieu. Accablé de sa majesté, je tombai à ses genoux et lui demandai pardon de mes emportements. « Mon fils, me répondit-il avec un accent si doux que le remords entra dans mon âme, mon fils, ce n'est pas pour moi-même que je vous ai réprimé. Hélas, vous avez raison, mon cher enfant. Je suis venu faire bien peu de choses dans ces forêts, et Dieu n'a pas de serviteur plus indigne que moi. Mais, mon fils, le ciel, voilà ce qu'il ne faut jamais accuser. Pardonnez-moi si je vous ai offensé, mais écoutons votre sœur. Il y a peut-être du remède, ne nous le laissons point d'espérer. Chaque tasse, c'est une religion bien divine que celle-là qui a fait une vertu de l'espérance. Mon jeune ami, reprit Atala, tu as été témoin de mes combats, et cependant tu m'en as vu que la moindre partie. Je te cachais le reste. Non, l'esclave noir qui arrose de ses sueurs les sables ardents de la Floride est moins misérable que n'a été Atala. Te sollicitant à la fuite, et pourtant certaine de mourir si tu t'éloignais de moi, craignant de fuir avec toi dans les déserts, et cependant haletant après l'ombrage des bois. Ah, s'il n'avait fallu que quitter parents, amis, patrie, si même, chose affreuse, il n'y eut eu que la perte de mon âme. Mais ton ombre, ô ma mère, ton ombre était toujours là, me reprochant ses tourments. J'entendais tes plaintes, je voyais les flammes de l'enfer te consumer. Mes nuits étaient arides et pleines de fantômes, mes jours étaient désolés. La rosée du soir séchait en tombant sur ma peau brûlante. J'entr'ouvrais mes lèvres aux brises, et les brises, loin de m'apporter la fraîcheur, s'embrasaient du feu de mon souffle. Quel tourment de te voir sans cesse auprès de moi, loin de tous les hommes, dans de profondes solitudes, et de sentir entre toi et moi une barrière invincible. Passer ma vie à tes pieds, te servir comme ton esclave, apprêter ton repas et ta couche dans quelque coin isolé de l'univers, eût été pour moi le bonheur suprême. Ce bonheur, j'y touchais, et je ne pouvais en jouir. Quel dessein n'ai-je point rêvé? Quel songe n'est point sorti de ce cœur si triste? Quelquefois, en attachant mes yeux sur toi, j'allais jusqu'à former des désirs aussi insensés que coupables. Tantôt j'aurais voulu être avec toi la seule créature vivante sur la terre, tantôt, sentant une divinité qui m'arrêtait dans mes horribles transports, j'aurais désiré que cette divinité se fût anéantie, pourvu que serré dans tes bras, j'eusse roulé d'abîme en abîme avec les débris de Dieu et du monde. À présent même, le dirais-je, à présent que l'éternité va m'engloutir, que je vais paraître devant le juge inexorable, au moment où, pour obéir à ma mère, je vois avec joie ma virginité dévorer ma vie, eh bien, par une affreuse contradiction, j'emporte le regret de n'avoir pas été à toi. « Ma fille, interrompit le missionnaire, votre douleur vous égare. Cet excès de passion auquel vous vous livrez est rarement juste. Il n'est pas même dans la nature. Et en cela, il est moins coupable aux yeux de Dieu, parce que c'est plutôt quelque chose de faux dans l'esprit que de vicieux dans le cœur. Il faut donc éloigner de vous ces emportements qui ne sont pas dignes de votre innocence. » Mais aussi, ma chère enfant, votre imagination impétueuse vous a trop alarmée sur vos vœux. La religion n'exige point de sacrifices plus qu'humains. Ces sentiments vrais et ces vertus tempérées sont bien au-dessus des sentiments exaltés et des vertus forcées d'un prétendu héroïsme. Si vous aviez succombé, eh bien, pauvre brebis égarée, le bon pasteur vous aurait cherché pour vous ramener au troupeau. Les trésors du repentir vous étaient ouverts. Il faut des torrents de sang pour effacer nos fautes aux yeux des hommes, mais une seule larme suffit à Dieu. Rassurez-vous donc, ma chère fille, votre situation exige du calme. Adressons-nous à Dieu, qui guérit toutes les plaies de ses serviteurs. Si c'est sa volonté, comme je l'espère, que vous échappiez à cette maladie, j'écrirai à l'évêque de Québec. Il a les pouvoirs nécessaires pour vous relever de vos vœux, qui ne sont que des vœux simples, et vous achèverez vos jours près de moi, avec chaque tasse, votre époux. À ces paroles du vieillard, Atala fut saisie d'une longue convulsion, dont elle ne sortit que pour donner des marques d'une douleur effrayante. « Quoi ? » dit-elle en joignant les deux mains avec passion, « il y avait du remède ? Je pouvais être relevée de mes vœux ?»« Oui, ma fille, » répondit le père, et vous le pouvez encore. Oh, il est trop tard, Il est trop tard, s'écria-t-elle. Faut-il mourir au moment où j'apprends que j'aurais pu être heureuse? Que n'ai-je connu plus tôt ce saint vieillard? Aujourd'hui, de quel bonheur je jouirai avec toi, avec chaque tasse chrétien, consolé, rassuré par ce prêtre auguste, dans ce désert, pour toujours. Oh, c'eût été trop de félicité. Calme-toi, lui dis-je en saisissant une des mains de l'infortuné, calme-toi, ce bonheur, nous allons le goûter. Oh, jamais, jamais, dit Atala. Comment, repartis-je? Tu ne sais pas tout, s'écria la Vierge. C'est hier, pendant l'orage. J'allais violer mes vœux. J'allais plonger ma mère dans les flammes de l'abîme. Déjà sa malédiction était sur moi. Déjà je mentais au Dieu qui m'a sauvé la vie. Quand tu baisais mes lèvres tremblantes, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu n'embrassais que la mort. Oh, au ciel ! S'écria le missionnaire, cher enfant, qu'avez-vous fait ? Un crime, mon père, dit Atala, les yeux égarés. Mais je ne perdais que moi, et je sauvais ma mère. Achève donc, m'écriai-je plein d'épouvante. Eh bien, dit-elle, j'avais prévu ma faiblesse. En quittant les cabanes, j'ai emporté avec moi. Quoi ? Repris-je avec horreur. Un poison, dit le père. Il est dans mon sein, s'écria Atala. Le flambeau échappe de la main du solitaire. Je tombe mourant près de la fille de Lopez. Le vieillard nous saisit l'un et l'autre dans ses bras, et tous trois, dans l'ombre, nous mêlons un moment nos sanglots sur cette couche funèbre. Réveillons-nous, réveillons-nous, dit bientôt le courageux ermite en allumant une lampe. Nous perdons des moments précieux. Intrépides chrétiens, bravons les assauts de l'adversité. La corde au cou, la cendre sur la tête, jetons-nous aux pieds du Très-Haut pour implorer sa clémence ou pour nous soumettre à ses décrets. Peut-être est-il temps encore. Ma fille, vous eussiez dû m'avertir hier au soir. Hélas, mon père, dit Atala, je vous ai cherché la nuit dernière, mais le ciel, en punition de mes fautes, vous a éloigné de moi. Tout secours eût d'ailleurs été inutile, car les Indiens même, si habiles dans ce qui regarde les poisons, ne connaissent point de remède à celui que j'ai pris. Ô Shaktas, juge de mon étonnement quand j'ai vu que le coup n'était pas aussi subit que je m'y attendais. Mon amour a redoublé mes forces, mon âme n'a pu si vite se séparer de toi. Ce ne fut plus ici par des sanglots que je troublais le récit d'Atala. Ce fut par ces emportements qui ne sont connus que des sauvages. Je me roulais furieux sur la terre, en me tordant les bras et en me dévorant les mains. Le vieux prêtre, avec une tendresse merveilleuse, courait du frère à la sœur et nous prodiguait mille secours. Dans le calme de son cœur et sous le fardeau des ans, il savait se faire entendre en notre jeunesse, et sa religion lui fournissait des accents plus tendres et plus brûlants que nos passions mêmes. Ce prêtre, qui depuis 40 années s'immolait chaque jour au service de Dieu et des hommes dans ces montagnes, ne te rappelle-t-il pas ces holocaustes d'Israël fumant perpétuellement sur les hauts lieux devant le Seigneur? Hélas, ce fut en vain qu'il essaya d'apporter quelques remèdes aux maux d'Atala. La fatigue, le chagrin, le poison et une passion plus mortelle que tous les poisons ensemble se réunissaient pour ravir cette fleur à la solitude. Vers le soir, des symptômes effrayants se manifestèrent. Un engourdissement général saisit les membres d'Atala et les extrémités de son corps commencèrent à refroidir. « Touche mes doigts, me disait-elle, ne les trouves-tu pas bien glacés ?» Je ne savais que répondre, et mes cheveux se hérissaient d'horreur. Ensuite, elle ajoutait, « Hier encore, mon bien-aimé, ton seul toucher me faisait tressaillir, et voilà que je ne sens plus ta main, je n'entends presque plus ta voix, les objets de la grotte disparaissent tour à tour. Ne sont-ce pas les oiseaux qui chantent? Le soleil doit être près de se coucher maintenant. Chaque tasse, ses rayons seront bien beaux au désert sur ma tombe. » Atala, s'apercevant que ces paroles nous faisaient fondre en pleurs, nous dit « Pardonnez-moi, mes bons amis, je suis bien faible. Mais peut-être que je vais devenir plus forte. Cependant, mourir si jeune, tout à la fois, quand mon cœur était si plein de vie. Chef de la prière, aie pitié de moi, soutiens-moi. Crois-tu que ma mère soit contente et que Dieu me pardonne ce que j'ai fait ?» Ma fille, répondit le bon religieux en versant des larmes et les essuyant avec ses doigts tremblants et mutilés. Ma fille, tous vos malheurs viennent de votre ignorance. C'est votre éducation sauvage et le manque d'instruction nécessaire qui vous ont perdu. Vous ne saviez pas qu'une chrétienne ne peut disposer de sa vie. Consolez-vous donc, ma chère brebis. Dieu vous pardonnera à cause de la simplicité de votre cœur. Votre mère et l'imprudent missionnaire qui la dirigeait ont été plus coupables que vous. Ils ont passé leur pouvoir en vous arrachant un vœu indiscret. Mais que la paix du Seigneur soit avec eux. Vous offrez tout droit un terrible exemple des dangers de l'enthousiasme et du défaut de lumière en matière de religion. Rassurez-vous, mon enfant, celui qui sonde les reins et les cœurs vous jugera sur vos intentions qui étaient pures et non sur votre action qui est condamnable. Quant à la vie, si le moment est arrivé de vous endormir dans le Seigneur, oh, ma chère enfant, que vous perdez peu de choses en perdant ce monde. Malgré la solitude où vous avez vécu, vous avez connu les chagrins. Que penseriez-vous donc si vous étiez témoin des maux de la société, si, en abordant sur les rivages de l'Europe, votre oreille eût été frappée de ce long cri de douleur qui s'élève de cette vieille terre? L'habitant de la cabane et celui des palais, tout souffre, tout gémit ici-bas. Les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. Est-ce votre amour que vous regrettez? Ma fille, il faudrait autant pleurer un songe. Connaissez-vous le cœur de l'homme, et pourriez-vous compter les inconstances de son désir? Vous calculeriez plutôt le nombre des vagues que la mer roule dans une tempête. Atala, les sacrifices, les bienfaits ne sont pas des liens éternels. Un jour peut-être le dégoût fut venu avec la satiété. Le passé eût été compté pour rien et l'on n'eût plus aperçu que les inconvénients d'une union pauvre et méprisée. Sans doute, ma fille, les plus belles amours furent celles de cet homme et de cette femme sortis de la main du Créateur. Un paradis avait été formé pour eux, ils étaient innocents, immortels, parfaits de l'âme et du corps, ils se convenaient en tout. Ève avait été créée pour Adam et Adam pour Ève. S'ils n'ont pu toutefois se maintenir dans cet état de bonheur, quel couple le pourront après eux? Je ne vous parlerai point des mariages des premiers-nés des hommes, de ces unions ineffables, alors que la sœur était l'épouse du frère, que l'amour et l'amitié fraternelle se confondaient dans le même cœur, et que la pureté de l'une augmentait les délices de l'autre. Toutes ces unions ont été troublées. La jalousie s'est glissée à l'autel de gazon où l'on immolait le chevreau. Elle a régné sous la tente d'Abraham, et dans ces couches même où les patriarches goûtaient tant de joie qu'ils oubliaient la mort de leur mère. Pousseriez-vous donc flatté, mon enfant, d'être plus innocente et plus heureuse dans vos liens que ces saintes familles dont Jésus-Christ a voulu descendre? Je vous épargne les détails des soucis du ménage, les disputes, les reproches mutuels, les inquiétudes et toutes ces peines secrètes qui veillent sur l'oreiller du lit conjugal. La femme renouvelle ses douleurs chaque fois qu'elle est mère, et elle se marie en pleurant. Que de maux dans la seule perte d'un nouveau-né à qui l'on donnait le lait et qui meurt sur votre sein. La montagne a été pleine de gémissements. Rien ne pouvait consoler Rachel parce que ses fils n'étaient plus. Ces amertumes attachées aux tendresses humaines sont si fortes que j'ai vu dans ma patrie de grandes dames aimées par des rois quitter la cour pour s'ensevelir dans des cloîtres et mutiler cette chair révoltée dont les plaisirs ne sont que des douleurs. Mais peut-être direz-vous que ces derniers exemples ne vous regardent pas, que toute votre ambition se réduisait à vivre dans une obscure cabane avec l'homme de votre choix, que vous cherchiez moins les douceurs du mariage que les charmes de cette folie que la jeunesse appelle amour. Illusion, chimère, vanité, rêve d'une imagination blessée. Et moi aussi, ma fille, j'ai connu les troubles du cœur. Cette tête n'a pas toujours été chauve, ni ce sein aussi tranquille qu'il vous le paraît aujourd'hui. Croyez-en, mon expérience, si l'homme, constant dans ses affections, pouvait sans cesse fournir à un sentiment renouvelé sans cesse, sans doute la solitude de l'amour l'égalerait à Dieu même, car ce sont là les deux éternels plaisirs du grand être. Mais l'âme de l'homme se fatigue, et jamais elle n'aime longtemps le même objet avec plénitude. Il y a toujours quelques points par où deux cœurs ne se touchent pas, et ces points suffisent à la longue pour rendre la vie insupportable. Enfin, ma chère fille, le grand tort des hommes dans leurs songes de bonheur est d'oublier cette infirmité de la mort attachée à leur nature. Il faut finir. Tôt ou tard, quelle qu'eût été votre félicité, ce beau visage se fût changé en cette figure uniforme que le sépulcre donne à la famille d'Adam. L'œil même de chaque tasse n'aurait pu vous reconnaître entre vos sœurs de la tombe. L'amour n'étant point son empire sur les vers du cercueil. Que dis-je, ô vanité des vanités? Que parlais-je de la puissance de l'amitié de la terre? Voulez-vous, ma chère fille, en connaître l'étendue? Si un homme revenait à la lumière, quelques années après sa mort, je doute qu'il fût revu avec joie par ceux-là même qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire. Tant on forme vite d'autres liaisons, tant on prend facilement d'autres habitudes, tant l'inconstance est naturelle à l'homme, tant notre vie est peu de choses même dans le cœur de nos amis. Remerciez donc la bonté divine, ma chère fille, qui vous retire si vite de cette vallée de misère. Déjà, le vêtement blanc et la couronne éclatante des vierges se préparent pour vous sur les nuées. Déjà, j'entends la reine des anges qui vous crie « Venez, ma digne servante, venez, ma colombe, venez vous asseoir sur un trône de candeur parmi toutes ces filles qui ont sacrifié leur beauté et leur jeunesse au service de l'humanité, à l'éducation des enfants et au chef-d'œuvre de la pénitence. Venez, rose mystique, vous reposez sur le sein de Jésus-Christ. Ce cercueil, l'inuptial que vous vous êtes choisi, ne sera point trompé, et les embrassements de votre céleste époux ne finiront jamais. Comme le dernier rayon du jour abat les vents et répand le calme dans le ciel, ainsi la parole tranquille du vieillard apaisa les passions dans le sein de mon amante. Elle ne parut plus occupée que de ma douleur et des moyens de me faire supporter sa perte. Tantôt, elle me disait qu'elle mourrait heureuse si je lui promettais de sécher mes pleurs. Tantôt, elle me parlait de ma mère, de ma patrie. Elle cherchait à me distraire de la douleur présente en réveillant en moi une douleur passée. Elle m'exhortait à la patience, à la vertu. « Tu ne seras pas toujours malheureux, » disait-elle. « Si le ciel t'éprouve aujourd'hui, c'est seulement pour te rendre plus compatissant aux maux des autres. Le cœur, ô chaque tasse, est comme ces sortes d'arbres qui ne donnent leur baume pour les blessures des hommes que lorsque le fer les a blessés eux-mêmes. » Quand elle avait ainsi parlé, elle se tournait vers le missionnaire, cherchait auprès de lui le soulagement qu'elle n'avait fait éprouver, et, tour à tour consolante et consolée, elle donnait et recevait la parole de vie sur la couche de la mort. Cependant l'ermite redoublait de zèle. Ses vieux os s'étaient ranimés par l'ardeur de la charité, et toujours préparant des remèdes, rallumant le feu, rafraîchissant la couche, il faisait d'admirables discours sur Dieu et sur le bonheur des justes. Le flambeau de la religion à la main, il semblait précéder Atala dans la tombe pour lui en montrer les secrètes merveilles. L'humble grotte était remplie de la grandeur de ce trépas chrétien, et les esprits célestes étaient, sans doute, attentif à cette scène où la religion luttait seule contre l'amour, la jeunesse et la mort. Elle triomphait, cette religion divine, et l'on s'apercevait de sa victoire à une sainte tristesse qui succédait dans nos cœurs au premier transport des passions. Vers le milieu de la nuit, Atala sembla se ranimer pour répéter des prières que le religieux prononçait au bord de sa couche. Peu de temps après, elle me tendit la main, et avec une voix qu'on entendait à peine, elle me dit « Fils d'Outalissi, te rappelles-tu cette première nuit où tu me pris pour la Vierge des dernières amours? Singulier présage de notre destinée !» Elle s'arrêta, puis elle reprit « Quand je songe que je te quitte pour toujours, mon cœur fait un tel effort pour revivre que je me sens presque le pouvoir de me rendre immortel à force d'aimer. Mais, ô mon Dieu, que votre volonté soit faite. » Atala se tut pendant quelques instants. Elle ajouta, « Il ne me reste plus qu'à vous demander pardon des maux que je vous ai causés. Je vous ai beaucoup tourmenté par mon orgueil et mes caprices. Chaque tasse, un peu de terre, jetée sur mon corps, va mettre tout un monde entre vous et moi, et vous délivrer pour toujours du poids de mes infortunes.
Vous pardonnez, répondis-je noyé de larmes, n'est-ce pas moi qui ai causé tous vos malheurs?
Mon ami, dit-elle en m'interrompant, vous m'avez rendue très heureuse, et si j'étais à recommencer la vie, je préférerais encore le bonheur de vous avoir aimé quelques instants dans un exil infortuné à toute une vie de repos dans ma patrie.
Ici, la voix d'Atala s'éteignit. Les ombres de la mort se répandirent autour de ses yeux et de sa bouche. Ses doigts errants cherchaient à toucher quelque chose. Elle conversait tout bas avec des esprits invisibles. Bientôt, faisant un effort, elle essaya, mais en vain, de détacher de son cou le petit crucifix. Elle me pria de le dénouer moi-même, et elle me dit « Quand je te parlais pour la première fois, tu vis cette croix briller à la lueur du feu sur mon sein. C'est le seul bien que possède Atala. Lopez, ton père et le mien, l'envoya à ma mère peu de jours après ma naissance. Reçois donc de moi cet héritage, ô mon frère, conserve-le en mémoire de mes malheurs. Tu auras recours à ce Dieu des infortunés dans les chagrins de ta vie. Chaque tasse, j'ai une dernière prière à te faire. Ami, notre union aurait été courte sur la terre, mais il est après cette vie une plus longue vie. Qu'il serait affreux d'être séparé de toi pour jamais. Je ne fais que te devancer aujourd'hui, et je te vais attendre dans l'Empire céleste. Si tu m'as aimé, fais-toi instruire dans la religion chrétienne qui préparera notre réunion. Elle fait sous tes yeux un grand miracle, cette religion, puisqu'elle me rend capable de te quitter sans mourir dans les angoisses du désespoir. Cependant, Shaktas, je ne veux de toi qu'une simple promesse. Je sais trop ce qu'il en coûte pour te demander un serment. Peut-être ce vœu te séparerait-il de quelque femme plus heureuse que moi. Oh, ma mère, pardonne à ta fille. Oh, Vierge, retenez votre courroux. Je retombe dans mes faiblesses et je te dérobe, ô mon Dieu, des pensées qui ne devraient être que pour toi. Navré de douleur, je promis à Atala d'embrasser un jour la religion chrétienne. À ce spectacle, le solitaire, se levant d'un air inspiré et étendant les bras vers la voûte de la grotte, « Il est temps, s'écria-t-il, il est temps d'appeler Dieu ici. » À peine a-t-il prononcé ces mots, qu'une force surnaturelle me contraint de tomber à genoux et m'incline la tête au pied du lit d'Atala. Le prêtre ouvre un lieu secret où était renfermée une urne d'or couverte d'un voile de soie. Il se prosterne et adore profondément. La grotte parut soudain illuminée. On entendit dans les airs les paroles des anges et les frémissements des harpes célestes. Et lorsque le solitaire tira le vase sacré de son tabernacle, je crus voir Dieu lui-même sortir du flanc de la montagne. Le prêtre ouvrit le calice, il prit entre ses deux doigts une hostie blanche comme la neige, et s'approcha d'Atala en prononçant des mots mystérieux. Cette sainte avait les yeux levés au ciel en extase. Toutes ses douleurs parurent suspendues, toute sa vie se rassembla sur sa bouche, ses lèvres s'entr'ouvrirent et vinrent avec respect chercher le Dieu caché sous le pain mystique.
Ensuite, le divin vieillard trempe un peu de coton dans une huile consacrée. Il en frotte les tempes d'Atala. Il regarde un moment la fille mourante. Et tout à coup, ses fortes paroles lui échappent. Partez, âme chrétienne, allez rejoindre votre Créateur. Relevant alors ma tête abattue, je m'écriai en regardant le vase où était l'huile sainte. Mon père, ce remède rendra-t-il la vie à Atala? Oui, mon fils, dit le vieillard en tombant dans mes bras, la vie éternelle. Atala venait d'expirer. Dans cet endroit, pour la seconde fois depuis le commencement de son récit, Shaktas fut obligé de s'interrompre. Ses pleurs l'inondaient et sa voix ne laissait échapper que des mots entrecoupés. Le sachem aveugle ouvrit son sein. Il en tira le crucifix d'Atala. « Le voilà !» s'écria-t-il, ce gage de l'adversité. « Ô René, ô mon fils, tu le vois ! Et moi, je ne le vois plus. Dis-moi, après tant d'années, l'or n'en est-il point altéré, et n'y vois-tu point la trace de mes larmes? Pourrais-tu reconnaître l'endroit qu'une sainte a touché de ses lèvres? Comment Shaktas n'est-il point encore chrétien? Quelle frivole raison de politique et de parti l'ont jusqu'à présent retenu dans les erreurs de ses pères? Oh non, non, je ne veux pas tarder plus longtemps. La terre me crie, quand donc descendras-tu dans la tombe et qu'attends-tu pour embrasser une religion divine? Oh terre, vous ne m'attendrez pas longtemps. Aussitôt qu'un prêtre aura rajeuni dans l'onde cette tête blanchie par les chagrins, j'espère me réunir à Atala. Mais achevons ce qui me reste à conter de mon histoire.